la semaine dernière. Ça dépend de vous, hein, parce que si vous dormez, on peut passer tous à côté. La semaine dernière, on a vu combien deux personnes, deux frères, même famille, même enseignement, même parents. L'un s'appelle Cain, l'autre s'appelle Abel. L'un a choisi le chemin de la loi, réussir par ses propres efforts, ses mérites, et essayer de se mettre des règles pour réussir à vaincre les malédictions, et notamment la malédiction du sol. Cain a décidé que ça serait avec ses efforts, et quand il arrivait avec une offrande devant Dieu, il a dit « Seigneur, voici les produits que j'ai plantés, toutes les choses auxquelles j'ai renoncé, toutes les luttes, ma sueur, mon front, ma transpiration, c'est pour toi Dieu. Voici, je viens vers toi avec cette offrande. » Tandis que Abel, son frère, qui veut dire souffle, lui a simplement constaté la grâce de Dieu dans son troupeau. Il a récupéré ce qui est né de la grâce de Dieu, c'est-à-dire ses petits agneaux, et il a porté les premiers au Seigneur. Et je vous avais dit que Cain est un symbole de la loi, quand on essaye de plaire à Dieu par nos efforts, alors que Abel est un symbole de la grâce, lorsque c'est Dieu qui fait des efforts pour nous, et on a simplement un cœur reconnaissant vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on en fait moins, mais ça veut dire que ce n'est pas pour plaire à Dieu qu'on le fait, mais parce que Dieu était bon pour nous. C'est différent entre le système de la grâce et le système de la loi. Or, combien parmi vous sont nés dans une famille évangélique pratiquante? Levez la main. Il y en a peut-être moins à 14h. Je ne sais pas, aux autres cultes, ça dépend. Oh ouais, il y en a moins. Il y a un sur deux seulement. Les autres, la moitié qui ne sont pas nés dans une famille évangélique, ayez pitié de nous, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans une église évangélique, mais souvent de la loi. Pas toutes, hein, pas toutes. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait un catalogue de règles à faire, plus un catalogue de règles à ne pas faire. Et ça allait assez loin. Je vais vous donner un petit exemple du catalogue des règles évangéliques à respecter. Souvent, c'est inspiré, c'est un mélange de règles qu'on a récupérées du judaïsme et qu'on a relookées. Il y en a qui sont très bonnes, parce qu'il y a des lois de Dieu. Puis il y a également des choses qui sont un peu plus humaines. Mais par exemple, interdiction de alcool, zéro. Cigarette, zéro. Drogue, on n'en parle pas, zéro. Sexe hors mariage, zéro. Boudin noir, zéro. Ça, c'est spécial anti. Moi, je n'ai pas été gêné par ça. Mais... rock, zéro, pas chrétien. Batterie, chose de genre, zéro. Bon, bref, ça, c'est un peu toutes les règles à ne pas faire. Puis, on avait aussi les choses à faire pour être un bon chrétien. On avait, les femmes, vous étiez un peu les chouchous hein, dans ce genre d'église légaliste. Vous en avez pas mal à vous. Hein. Le voile. Dans certaines églises. Moi, je viens d'une église dans laquelle il y avait le service d'ordre à l'entrée distribuer des voiles aux femmes qui n'en avaient pas. Voilà, si, ça existe encore ici sur la terre. Réunion de prière obligatoire. Vous avez connu les réunions de prière obligatoires? Nous, on en avait, obligatoire. Tu étais absent. Présence aux réunions, si tu étais absent aux réunions. Tu avais au mieux un coup de téléphone. Sinon, tu avais un coup tout court. Et tu venais aux réunions, hein. Respect du Shabbat. Enfin, il y avait plein de choses, des obligations à suivre. Est-ce que c'était mauvais? C'est ni mauvais ni bon. Ça, c'est une efficacité, les règles, parce que ça donne un cadre. Et la loi, elle est bonne en soi. Il y a plein de commandements qu'on met en place. Le problème, c'est que si jamais tu es dans une logique de la loi, tu vas faire des efforts pour plaire à Dieu au travers du respect de tout ça. Et tu ne vas pas comprendre certaines choses. Parce que quand tu vas arriver avec ton offrande à Dieu, tu vas dire « Seigneur, j'ai fait ça, je suis resté avant le mariage, j'ai attendu, j'étais fidèle aux réunions, j'étais fidèle dans ma dîme, etc. » Je m'attends à ce que du coup, Dieu, il y ait une forme de bénédiction. Et on rentre dans un marché de la loi avec Dieu, et c'est ce que Cain, il va buter contre ce problème-là, et il va rentrer dans une colère noire, parce qu'il ne comprend pas alors qu'il a appliqué les règles, Dieu n'approuve pas son offrande. Et ça va aller très loin, puisque Cain dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était la grâce assassinée. La grâce assassinée. Et c'était prophétique parce que ça s'est passé également le jour où Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi. Et il a été battu, 40 coups de bâton, 50 coups de bâton moins 1, j'ai un petit doute tout d'un coup. C'est combien? C'est 40 ou 50? 40. 40 coups de bâton moins 1. Laissé quasiment pour mort, hein, après porter la croix avec Simon, jusqu'au bout, après la flagellation, après la couronne d'épines, il est sur la croix. Vous savez que les crucifiés devaient prendre appui sur leurs pieds pour pouvoir respirer, Donc à chaque fois, il se déchirait au niveau de la plante des pieds. Et il est dit, près de la croix de Jésus, se tenait la mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, voici ton fils. Donc il prend une respiration extrêmement douloureuse pour, par amour, créer un lien encore et recréer une famille. Puis il dit au disciple, voici ta mère. À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Et là, je me dis, c'est pas possible, la grâce est assassinée. Et le verset d'après est particulièrement choquant. Quand vous lisez le verset 30, vous voyez que Christ, mort dans des souffrances terribles, en train de bénir encore une famille. Et au verset 31, voici ce que les hommes de la loi voient. Comme c'était la veille du Shabbat, et de plus un Shabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allaient retrouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Le seul problème que voit quelqu'un qui est légaliste, il dit « Il y a un problème, c'est Shabbat, ça va puer !» Alors que Christ est dans une dimension à l'agonie en train de sauver, de créer de la famille, de créer de l'amour, les hommes de la loi disent « Le Shabbat doit être sanctifié par l'Éternel, c'est écrit dans la Bible. » La Torah dit que le Shabbat doit être honoré, c'est un jour saint, sanctifié, mis à part. On ne peut pas laisser des cadavres pourrir un jour comme ça. Est-ce que d'un point de vue purement de la loi, ils ont raison, d'un point de vue de la loi, ils ont raison. Mais vous voyez bien, c'est choquant quand même. Hein, et c'est pour ça que Christ avait dit, et c'était magnifique, « Si seulement vous aviez compris cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour les uns envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices ou que vous respectiez la loi, vous n'auriez pas condamné ces innocents. » Et là, je suis là, « Seigneur, que ce soit à Caracoche, que ce soit dans le monde entier, est-ce que les enfants de la grâce sont voués à mourir toujours assassinés? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose ?» Et là, je lis dans Jean 20. Voilà ce qui se passe. On a l'impression que la grâce meurt. Et ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient tous dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs de Juifs. Donc on a tous peur de la loi. Jésus vint, il se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Oui, que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint, c'est la grâce ressuscitée, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. » On est d'accord ? Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, qu'on puisse recevoir vraiment l'Esprit Saint pour comprendre ce que tu veux nous dire par la grâce ressuscitée et comment la vivre. Seigneur, parle par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce ressuscitée, comment vivre dans la grâce? Vous voyez, le mot Abel veut dire souffle. Vous vous rappelez? C'est génial. La Bible, bon, vous le savez que c'est un livre génial. C'est divin. C'est en fait, quand je disais qu'Abel était prophétique, c'est étonnant parce que le mot Abel veut dire souffle. Et la grâce meurt, et la seule chose qui fait qu'elle puisse revivre, c'est le souffle, l'esprit. Et en fait, l'Esprit de Dieu va te permettre de réussir dans une démarche de sanctification, d'être de plus en plus comme Christ, non par la peur de mal faire, qui est la loi, mais par la grâce de Dieu. Alors, on voit le premier point, la grâce, ça commence avec la croix. Et pourquoi c'est un triomphe ? Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Tout le monde voit bien de ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité et les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de genre. Oui, je voudrais juste vous dire quelque chose. Ces péchés-là, ils disparaissent une fois qu'on a pris son baptême ou pas? Non. Ça nous colle. C'est lié à notre nature humaine. Que vous soyez dans une église de la grâce ou une église de la loi, que vous soyez né avant la mort de Christ à la croix ou après, les mêmes péchés traînent de tout temps, en tout lieu. En fait, il y a quatre types de péchés. Je ne sais pas si vous avez vu le catalogue. Il y a quatre sortes. La première page nous montre l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, ce sont des péchés sexuels. C'est des péchés liés à des relations sexuelles hors mariage. Deuxième type de péché, l'adoration des idoles, la magie. C'est des péchés occultes. C'est les sciences occultes et divinatoires. Deuxième type de péché. Ça dépend de... Chacun d'entre nous est sensible plus à un de ces péchés. Ensuite, vous avez les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Ce sont des péchés caractériels. T'as un petit coup de coude au voisin. T'sais, toi, t'as peut-être pas de problème sexuel, mais t'as un vrai problème de caractère. T'as... Ça, c'est fait pour toi. Regarde, le pasteur, il a parlé de toi. Et puis après, vous avez un quatrième type de péché où vous détruisez votre propre corps. L'envie, l'ivrognerie, les orgies, les choses de genre, ce sont les addictions, les dépendances. L'alcool, par exemple, la drogue, c'est des choses qui vous détruisent, qui sont implantées en vous. La grâce, comme la loi, doit lutter contre ces choses. Si vous êtes musulman intégriste, juif intégriste, catholique intégriste, vous savez que c'est ceux qui progressent le plus, hein, les intégristes, parce que c'est les plus efficaces pour essayer de cadrer l'être humain, d'un point de vue humain. Des efforts, de la rigueur, de la discipline, vous allez réussir à peu près, si vous êtes dans une famille super stricte, à éviter certaines choses comme ça. Puis un jour, boum, ça explose, parce que c'est pas possible. Ça va notamment exploser au niveau caractériel, souvent. Les personnes de la loi, c'est au niveau du caractère qu'ils explosent. Ils sont capables de voir les péchés dans les autres, mais un jour, boum, ils s'explosent. Mais moi, je crois que par la grâce, vous allez pouvoir triompher. Et là, je me donne comme objectif, dans les 20 prochaines minutes, si vous accordez juste 20 minutes, vous allez avoir une révélation de Dieu. Comment faire pour gagner contre ce péché qui te colle à la peau? L'apôtre Paul dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dit « Dans mon cœur, je sais que la loi de Dieu est bonne, mais la loi que je veux faire, je n'arrive pas à la faire. » Romains 7. « Je lutte, j'y arrive pas !» Et il y a un moment, il capitule, il meurt à lui-même et il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » La victoire est acquise, grand 1, à la croix, par la croix de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de toi, c'est ce qui s'est passé à la croix. Il s'est passé deux choses à la croix. C'est l'image d'après. Il s'est passé quelque chose dans le monde visible et quelque chose dans le monde invisible. Qu'est-ce qui s'est passé dans le visible? Qu'est-ce qu'il s'est passé d'un point de vue visible dans ce que vous pouviez entendre si vous étiez au pied de la croix de Jésus ce jour-là? Vous auriez vu quoi? Allez, un petit peu d'interaction. Voilà. Vous auriez vu quoi? Visiblement, le combat, parce qu'il y a un combat. Visiblement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui est sur la croix qui dit « Tout est accompli ». Je crois que c'est plus qu'un homme, je crois que c'est le Fils de Dieu. Mais on entend juste « Tout est accompli ». Et il meurt, il baisse la tête. Quoi d'autre? Le ciel s'assombrit. Tremblement de terre. Le voile se déchire dans le temple. Bon, il n'y a que ceux qui sont dans le temple qui le voient, eux. Les morts ressuscitent. Voilà, vous avez fait le catalogue. C'est bien. Vous connaissez votre Bible. Regardez le verset. Il est dit, verset suivant. À ce moment-là, Jésus-Christ donc, poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des morts s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Waouh ! Il se passe quelque chose. Mais si vous êtes vraiment incrédule, un athée de base, vous allez dire « Des tremblements de terre, ça arrive. Des rideaux qui se déchirent. Ah, c'est un concours de circonstances. » Et vous voyez, si vous ne voulez pas voir, vous ne verrez jamais le visible. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'invisible. B, deuxième partie, dans l'invisible qui se passe à la croix. Ok, Christ est mort le vendredi. Premier jour le vendredi, samedi, dimanche. Le troisième jour, au matin, des femmes vont au tombeau, il est ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé entre le vendredi et le dimanche? Il y a eu 48 heures à peu près, il s'est passé quoi? C'est dans l'invisible, pasteur. C'est quoi cette question rhétorique dans laquelle il n'y a pas de solution? C'est vraiment une question de pasteur, ça. Regardez. Il y a un petit éclairage qui nous est donné par Pierre. Le problème, c'est que Pierre, c'est un pêcheur qui n'a pas fait beaucoup d'études en grec. Et donc, du coup, quand il écrit la première épître et la deuxième épître de Pierre, les traductions, des fois, varient d'une Bible à l'autre. Mais regardez ce qui est marqué dans la version la plus courante. Pierre, donc, qui écrit, il dit « Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'esprit, le souffle. » Gardez ça de côté comme Abel, etc. C'est fort. C'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison qui, comme au temps de Noé, était, etc. Je sais pas tout. Parce que je maîtrise pas le domaine spirituel, vous voyez. Je suis pas dans les airs, dans les notions de puissance. Mais il y a eu un combat, quelque chose qui s'est passé, où il y a une proclamation. En tout cas, l'apôtre Paul dit à un autre moment, lui qui a vécu dans les arènes de Rome, il dit, c'est comme si Christ a livré publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, les puissances, les autorités. C'est comme les empereurs romains, avant d'être empereurs, les généraux rentraient avec derrière eux les armées ennemies qui avaient été défaites et ils les amenaient et ils allaient comme un cortège pour dire « On a gagné !» C'est ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu 48 heures de feu dans le ciel où la puissance de la mort a été vaincue. Et c'est ça qui s'est passé et on sous-estime toujours ce qui s'est passé à la croix. Parce que c'est la puissance sur ton péché également, sur mon péché. À partir de maintenant, toute personne qui pliera le genou et regarde à la croix en disant « Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité et je te donne ma vie, tu es pardonné de tout péché. » C'est extraordinaire. C'est une puissance de vie qui a été encapsulée, décapsulée à la croix. Ça a explosé et dans le monde invisible, maintenant tu as le pouvoir sur le péché. Il n'y a pas beaucoup de amen parce que vous êtes assez réaliste et vous dites « Mais pourtant, je suis encore vraiment tenté. » Alors, on va voir grand 2. Ta croix, non plus la croix de Christ, deuxième partie, ta croix, la victoire sur le péché. Comment la grâce dans ton cœur peut vaincre? Comment on peut faire sans être un intégriste pour lutter contre la porno, contre le fait d'avoir envie de tromper son conjoint, contre des frustrations dans le domaine sexuel? Comment fait-on pour régler ces problèmes de colère que tu traînes depuis ton enfance, ces insultes qui est ta façon de communiquer lorsque tu perds pied? Comment fait-on pour éviter une drogue qui te colle même après ton baptême? Seigneur, comment la grâce peut me délivrer? Ah ben c'est parti. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe déjà dans le monde visible. Alors, les péchés... Je vais faire comme l'apôtre Paul, on va prendre la première partie du catalogue, les péchés sexuels. Les péchés sexuels, on va mettre les choses en évidence. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, ça, c'est, tout ça c'est des péchés sexuels. Alors j'ai essayé de pousser pour essayer de voir, j'ai jamais entendu aucun pasteur prêcher là-dessus, mais peut-être Emmanuel tu l'as fait, mais dites-moi la différence entre l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. C'est un peu un problème. Alors, ça aurait pu être le degré de la gravité, mais en fait, c'est compliqué parce qu'on a un problème de vocabulaire. Je crois que c'est fait exprès. Mais c'est comme si l'apôtre Paul a employé trois mots. Il y a pornéa, porné. Alors, vous dites, ah, mais ça, je sais, ça donnait le mot pornographie en français. Mais... Vous savez, je me méfie des faux amis parce que quand vous avez un mot, regardez ceux qui ont fait un petit peu d'anglais. Quand vous avez le même mot en français et en anglais, est-ce que ça veut dire la même chose? Non, des fois, il y a des faux amis, justement, ça se prononce pareil, ça s'écrit pareil et ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Bon, porné, normalement, c'est une relation sexuelle, hors mariage, qui laisse entendre soit que c'est tarifé, soit c'est juste de la luxure. Donc la prostitution ou de la luxure, mais c'est, on n'a pas... Je vais aller voir l'apôtre Paul là-haut, je vous promets. Et je lui dis, quand tu as écrit Galates 5, tu disais quoi là-dedans? Parce que le mot porné, moi, ça me... Bon, je comprends l'idée. Après, pratique dégradante. On a le mot akatharsia en grec. Là, c'est traduit par pratique dégradante. Les autres, vous avez peut-être impureté. Aïe, 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 pasteur, ça parle de quoi? C'est quoi le mot? Puis après, on a aselgia, la débauche. Là, ça semble que c'est un peu plus lié avec une notion de prostitution, peut-être prostitution sacrée, mais ça dépend des traductions aussi. L'inconduite, des fois, ou la dissolution. Bah, ça ne me dit pas... Je dis, pourquoi tu n'as pas employé des mots clairs, quoi? Ou des pratiques sexuelles, est-ce que c'est autorisé ou pas? Et je vais être franc avec vous. Est-ce que dans un couple, on peut tout faire? Une fois qu'on est marié, est-ce que ça veut dire que tous les types de relations sexuelles sont bonnes ou pas? Est-ce qu'on peut tout faire? Seigneur, là, c'est pas cool. J'aurais préféré que tu me dises, mais comme dans l'islam ou comme dans le judaïsme, une règle, mais juste facile à suivre, un mot clair. Est-ce qu'il y a le mot masturbation dans la Bible? Si vous l'avez trouvé, dites-moi, parce que je veux voir votre version. Moi, j'ai jamais trouvé. Est-ce que c'est là-dedans? Est-ce que c'est pas là-dedans? Je ne sais pas. Maintenant, après, je vais vous dire pourquoi. Et j'entends beaucoup de prédicateurs qui affirment des choses très carrées. Ils vont avoir beaucoup d'autorité. Vous allez dire, ah, ça, c'est un vrai homme de Dieu parce que lui, il a la science de Dieu. Ce n'est pas vrai. Il interprète juste le texte. J'aimerais pouvoir vous dire avec certitude que akatharsia veut dire ça. Eh bien, je ne sais pas. Voilà. Et si j'avais un prof de grec et que le prof de grec, il est honnête, il dit, attention, on n'a malheureusement pas la description à quoi ça correspond vraiment. Mais vous allez me dire, bah alors, c'est permis ou c'est pas permis? Seigneur, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? L'apôtre Paul dit, verset 12 d'un Corinthiens 6, tout m'est permis. Ça s'affiche sur vos écrans. Tout m'est permis, péché sexuel. Mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. C'est porné, là. Là, c'est relation sexuelle hors mariage, c'est assez simple. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Seigneur, tu n'as pas répondu aux questions que le pasteur il a posées et le pasteur, c'est un filou parce qu'il n'a pas répondu non plus. Mais le pasteur, il ne peut pas répondre lorsque la Bible dit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre conduite. » Et je vais même aller plus loin. Regardez, il est dit « Tout est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. » Et je vais même aller plus loin. Dans le couple, ce qui est correct pour un couple ne l'est pas pour l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes différents. Et parce qu'il y a des choses pour qui quelqu'un, c'est une conviction de péché, pour l'autre, ça ne l'est pas. Ça dépend de votre passé, ça dépend de votre relation. Je sais une chose à la base, c'est que la sexualité, c'est génial, c'est inventé par Dieu. Dieu a trouvé un système pour que les êtres humains qui s'embrouillent naturellement, vous mettez un homme et une femme au bout de quelques temps, après une phase de séduction et de gentillesse, ils finissent par se crier dessus, globalement. Mais ce qui est génial avec Dieu, c'est que la sexualité, c'est un moment où un homme et une femme fusionnent tellement que, en plus de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, il se passe quelque chose qui fait qu'il y a non seulement du plaisir, mais il y a une joie, un attachement particulier. Ça peut faire naître un bébé. Les cathos ont dit « oui, le sexe, c'est pour faire des bébés ». Mais c'est pas vrai, parce que si le sexe était pour faire des bébés, à chaque relation sexuelle, il y aura un bébé. Or, vous savez très bien que les femmes, c'est pas à chaque fois. D'accord? Et c'est parce que Dieu a dit « des fois, on fait bonus plaisir simplement ». Puis des fois, on met un bébé en plus. Mais Dieu a trouvé ça parce qu'il dit la sexualité, c'est génial. C'est un moment où l'homme et la femme fusionnent et il y a de l'amour là-dedans. C'est l'attachement. Et c'est ça qui est bon. Et quand l'apôtre Paul dit « tout est permis, tout n'est pas bon pour moi », c'est pas quel mot, est-ce que ça c'est autorisé ou pas? C'est pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est parce que tu aimes ta femme? Est-ce que le corps du mari n'appartient pas à lui-même? Il appartient à sa femme, le corps de la femme n'appartient pas à lui-même, il appartient à son mari. Mais si ce n'est pas tous les deux ensemble, tous les deux d'accord, c'est un péché. Donc, je ne peux pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par contre, je peux vous dire, demande à ton conjoint si pour lui c'est bien. Si ce n'est pas le cas, fais pas. Deuxième chose, construis ton couple parce que le Saint-Esprit veut créer de la véritable amour dans le couple. Et si tu commences à avoir de la gêne, de la critique, de la pression dans le domaine de la sexualité, là, je peux vous dire, le diable est en train de vous séparer, l'autre vous unir. L'œuvre de Dieu est en train d'être cassée là-dedans. La sexualité, c'est fait pour rapprocher, c'est pas fait pour diviser. Le diable est malin, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Il utilise les choses de Dieu pour détourner. Et c'est pour ça que la sexualité hors mariage, hey, les célibataires, vous avez été bombardés avec 50 nuances de gris, là. Moi, il y aurait eu 49, déjà, c'était trop. Mais ils en ont mis plein partout, des bandes-annonces, des films. Après, vous avez les autres, Glidden, là, ou je ne sais pas quoi, l'infidélité, top sur Internet, je ne sais pas quoi. On est bombardés, et vous savez sur quoi ça joue? Ça joue sur vos frustrations. En disant, regarde, ton Dieu, il t'aime, bah, il te laisse comme une bonne sœur célibataire. Puis votre collègue, elle en rajoute une couche en disant, t'as vu le truc? Ça a changé, ça a pimenté ma vie. La même collègue, dans 2 ans, elle vient vers toi, elle pleure. Mon mari m'a trompé. Et parce qu'ils ne font pas le SAV, hein, le producteur de Nuance de Grey dit, en cas de divorce, je ne fais pas le SAV. Vous voyez le truc ? Parce que tu n'en auras jamais assez des émotions. Hein. Tu peux aller faire tout ce que tu veux et aller de plus en plus loin dans certaines pratiques. C'est pas ça qui va construire votre couple. Hein. Tout ce qui n'est pas construit avec amour, ça va après. Et c'est l'objectif du diable, c'est de vriller la sexualité vers la pulsion. Et comme ça, il se dit « impeccable, je casse l'attachement » qui était l'objectif de Dieu au départ. C'est terrible. C'est ça le malin. Du coup, pour chaque... Et pour les célibataires, vous avez d'autres tentations. Et la question de dire, est-ce que c'est quelque chose qui est bon ou pas ? Chacun se place devant Dieu et voit en son âme, est-ce que je peux regarder ça ou est-ce que je ne peux pas le regarder ? Qu'est-ce que ça me fait ? Je peux vous dire, un célibataire qui regarde ça, tu vas te faire du mal. Tu vas juste donner un accès au diable phénoménal. Et si un jour tu pêches, plus tu nourris de choses comme ça, plus tu vas créer des frustrations et plus tu vas augmenter le risque de faire des erreurs. Et c'est pour ça qu'il est dit, c'est après dans 1 Corinthiens, un tout petit peu plus loin, « Ignorez-vous que vos corps sont les membres du Christ. » Moi, tout à l'heure, je me suis dit, il faut que j'arrête de me ronger les ongles. Si c'était les ongles de Jésus, j'aurais du mal à les ronger. Non, mais vous comprenez l'idée, c'est on ne peut pas faire n'importe quoi. Nos corps sont les membres de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous l'avez été ou pas ? Je ne vais pas vous demander qui a pris son baptême. Mais si vous avez pris votre baptême, c'est exactement ça que vous avez fait le jour de votre baptême. Le jour de votre baptême, vous avez dit « Seigneur ». C'est pour ça que j'ai parlé de la mort à soi-même. Le jour du baptême, vous avez dit « Seigneur, je meurs à mon ancienne façon de vivre ». Yvan veut tout contrôler, il veut lutter contre le péché par ses propres forces. J'arrive pas. La loi n'est insuffisante. Alors je vais faire plouf entièrement, même si c'est dur, entièrement. Je suis sous l'eau, je sors, et la totalité de mon corps a été mis dans l'eau, d'accord ? Pas la moitié ! La tête, le torse, le sexe, les pieds, tout est dans l'eau. Et tout appartient à Jésus. Et sinon, voilà ce qui se passe, tu crées une fusion lorsque tu couches avec quelqu'un hors mariage. Tu imposes à Dieu une MST, maladie spirituellement transmissible. Parce que, en fait, tu obliges, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit dirige dans ton corps. Et tu dis, excuse-moi, je vais aller coucher avec cette personne. Mais cette personne n'est pas selon Dieu. Je suis en dehors des clous, je suis en dehors des plans de Dieu et je couche avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une relation sexuelle. Dans le visible, c'est juste du sexe. Bon, pas bon, mais c'est du sexe. Mais spirituellement, il y a une étincelle. Parce que tu imposes au Saint-Esprit de faire qu'un avec une personne dans laquelle le Saint-Esprit n'est pas. Et c'est ça qui est dangereux. Et ce n'est pas qu'une question d'hormones, là. Et ce n'est pas qu'une question de plaisir. C'est une question de trucs spirituels derrière. Vous êtes encore là ? Je veux dire, ok, c'est bon, on arrête sur les aspects sexuels. On a compris, pasteur, on passe. Ok, on passe. Il y a d'autres problèmes, parce que pour certains, vous n'avez pas de problème avec ça. Mais alors, d'un point de vue caractère... J'ai dit d'un point de vue caractère ! Faites pas semblant de vous cacher. Hein. Je vais parler à vos proches. Hein. Je vais demander à vos enfants comment tu fais quand t'es vraiment fâché. Il y a des dossiers, mes amis. Vos enfants parlent. Vos conjoints parlent des fois. Les péchés caractériels. Et l'apôtre Paul, il a pas raté le truc. Hein. Au cas où les légalistes ne mettent... J'ai rarement vu des personnes se sentir très culpabilisées dans une église. Et pourtant, il y a des gens qui ont des caractères de cochon. Ils sont super stricts avec les autres. Mais d'un point de vue caractère, c'est horrible. L'apôtre Paul est très clair, il dit « Débarrassez du mensonge déjà. Tous ceux qui arrangent la vérité, il y a un souci. » Ensuite, il dit « Mettez-vous en colère. Amen !» Oui, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Amen. T'as 24 heures pour t'énerver. Maximum. Alors, si tu commences ta colère à 21 heures, hein, ça va être court. Hein. Ne donnez pas accès au diable. Vous voyez ce clou-là ? Une belle bête, hein. Clou 25 cm, vous le plantez, ça vous permet d'accrocher des choses. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'avais connue d'un homme extrêmement riche qui avait plusieurs villas. Et il a décidé de faire une solde sur une de ces villas avec en bordure de forêt, en lisière de forêt, avec vue sur le lac. Magnifique. Il y a un jeune couple immédiatement qui dit « Oh, un prix cassé pour une telle villa, on va visiter ». Ils arrivent, le propriétaire les reçoit, il dit « Voilà, c'est la villa à vendre. » Une entrée majestueuse, un escalier extrêmement large, une cuisine, îlot central, un truc de fou, baie vitrée sur le lac, des chambres, une, deux, trois, quatre salles de bain, marbre, jacuzzi, tout. Waouh ! Et ils disent au propriétaire, mais expliquez-nous, là, c'est vraiment un prix cassé, là, qu'est-ce qui se passe ? Et le propriétaire dit, oui, je suis obligé de casser le prix parce que je laisse juste un clou qui reste ma propriété et qui explique le prix cassé. Voilà. Parce que je ne vous vends pas ce clou qui reste ma propriété à titre personnel et je peux faire ce que je veux avec ce clou, mais tout le reste est à vous. C'est pour ça que le prix est cassé.
Oh, bah, très bien, il n'y a pas de problème.
Et le couple, en une semaine, s'amuse, dit c'est génial, vive la liberté. Et au bout d'une semaine, il voit le propriétaire, l'ancien propriétaire qui vient, il a ramené un animal qu'il a tué à la chasse. Et il pend l'animal sur le clou, dis donc. L'animal mort. Ah, la jeune femme, elle dit, mais c'est quoi ce délire, là ? Ah, c'est mon clou, mademoiselle. C'est mon clou, madame. Ah, je suis désolé, ça fait partie du deal. Vous revenez quand ? Je reviens pas, madame. Vous avez compris qu'à la fin, c'est le couple qui part. Ça pue tellement dans ta maison, pour un clou. Que le malin a laissé chez toi, il a un accès au diable. Et c'est vrai par rapport à la colère. Des fois, tu dis « Oui, mais c'est justice !» De toute façon, c'est comme ça !» Tu t'endors avec ta colère. Il est dit « Vous donnez une emprise au diable. » C'est peut-être un petit clou pour toi. Tu dis « Ouais, mais bon, c'est juste... » Tu laisses une emprise au diable. L'apôtre Paul dit « Profitez pas de la grâce pour pécher. » Profitez pas de la grâce du fait que Dieu va pas vous pulvériser. N'en profitez pas pour laisser une emprise au diable. C'est vrai pour les péchés sexuels, c'est vrai pour les péchés caractériels. Je voudrais juste vous parler, terminer là-dessus sur les péchés visibles avec les dépendances. Donnez aucune prise au diable. Verset 27. Même il y a après, sur les péchés caractériels, il dit amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, paroles blessantes. Faites tout disparaître cela du milieu de vous. Toute forme de méchanceté. Ok, t'as aucune autorisation. Chaque insulte que tu fais, pour une bonne ou pour une mauvaise raison, c'est un clou. Point. Que tu choisis de laisser, c'est ton problème. Mais un jour, ta vie, pardonne-moi l'expression, ça va puer. Tu peux y détruire ton couple, tu peux détruire tes enfants là-dessus. Maintenant, tu choisis, tu le laisses là ou tu l'arraches. Mais sans la grâce de Dieu, tu t'en sortiras pas. Tu pourras mettre tous les désodorisants du monde. Au bout d'un moment, ta maison sera invivable. Invivable. Je parle des dépendances, pour terminer. Seigneur, comment faire quand l'apôtre Paul dit « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dit « Je sais le bien. Je dis la loi de Dieu est bonne. » C'est dans Romains 7. Il dit je veux faire le bien. Mais il y a comme si une loi à l'intérieur de moi m'empêche. Comme si ma chair est sans arrêt en dépendance vis-à-vis d'un péché. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? C'est vrai pour... Là, il est parlé de l'alcool, notamment l'ivrognerie. Mais c'est vrai pour certaines dépendances. Et le sexe peut être aussi des fois une dépendance pour certaines personnes. Mais ça peut être la cigarette, la drogue. On a juste un témoignage de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ici à Créteil, qui s'appelle Sabrina Kebli. C'est à 2 minutes, c'est bon, vous pouvez le mettre. On lance cette vidéo. C'est comment Dieu l'a délivré de la dépendance.
Très vite, je me suis retrouvée à la rue. Du coup, j'ai pas une vie d'adolescente normale. Moi, ma préoccupation, c'était de savoir où dormir, savoir quoi manger. L'héroïne m'a apporté du réconfort. J'ai tellement essayé de drogue. Je me sentais forte et je ne pensais jamais devenir accro. En fait, l'héroïne est un piège. J'ai perdu le contrôle et j'ai fait 8 mois de cure de désintoxication. 2 mois après mon retour, après ce long traitement, je pensais avoir repris le contrôle de ma vie. Je me sentais bien, je me sentais forte. Mais je suis retournée dans mon quartier et j'ai retrouvé les mêmes personnes. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, que j'avais détruit tous les efforts que j'avais faits, je pensais que ma vie était finie et que je m'en sortirais jamais. puis j'ai attendu la mort. Mais la mort ne venait pas, et le temps passait. Et je voulais en finir avant que mon copain se réveille. Je pensais que... Donc finalement, j'ai pris le couteau et je me suis poignardé le cœur. Et là, bon, je pensais vraiment ne plus être là.
Alors Sabrina est arrivée en effet à l'hôpital en urgence, droguée, avec des drogues de type héroïne, des drogues de type médication. Elle avait essayé aussi de se sectionner les veines. Il faut savoir que l'ensemble de ces lésions, à elle seule, pouvait la tuer, mais c'est sans aucun doute le coup de couteau porté au niveau du cœur gauche qui aurait pu être fatal.
J'ai fait deux arrêts cardiaques, dont l'un de plus de 20 minutes, et j'ai appris aussi que... On m'avait transfusé 11 litres de sang pendant l'opération.
Vous avez compris ma remarque, c'est-à-dire que, en fait, on l'a opérée à vif parce qu'elle était sous drogue à très haute dose. C'est exceptionnel.
Ma cousine est venue prier pour moi. Quand je suis sortie du coma, je pesais 37 kilos et j'avais la peau sur les os. J'étais très faible. Après ça, ma cousine me parlait souvent de Dieu et me disait qu'il m'avait gardé en vie. Elle m'invitait souvent à venir à l'église et moi je lui disais toujours non. J'ai rencontré un ami de ma cousine, mais quand je l'ai vu, moi, avec sa Bible, je me suis dit, mais... Dans ma tête, je me dis, mais c'est un pauvre garçon, quoi. Qu'est-ce qui perd son temps à lire un vieux livre, là, écrit par les hommes, qui m'a parlé de Jésus. L'histoire d'un père qui sacrifiait son fils, et je dois dire que j'ai rien compris à ce qu'il me racontait. Je me suis demandé si j'allais aller en enfer. J'ai voulu prouver que Dieu n'existait pas, et j'ai commencé à parler à ce Jésus. J'ai vraiment fait le bilan de ma vie et j'ai réalisé qu'il y avait des choses dont j'étais pas très fière. Mais là, je lui ai dit, écoute, moi, la drogue, c'est toute ma vie. Je fume depuis l'âge de 12 ans. J'ai pas pu passer une journée sans prendre quoi que ce soit. Je conçois même pas ma vie sans drogue. Mais je lui ai dit, si tu me délivres de ça, je crois en toi et je te suivrai. Et là, j'ai à peine fini ma phrase, j'ai la puissance de Dieu qui m'est tombée dessus, qui m'a envahi dans tout mon corps, qui m'a vraiment rempli d'amour, de paix, de joie. C'était si extraordinaire, j'ai dit « Waouh !» Mais c'est vrai, Dieu est vraiment vivant. C'était si concret, si réel. Et je savais à ce moment-là que j'avais vraiment été délivrée de toutes les drogues. Je te le dis, ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé. J'avais pas dormi comme ça depuis mon enfance.
Oui, Sabrina, depuis qu'elle a rencontré Dieu, elle est tout à fait changée. Hein. C'est le jour et la nuit.
C'est le Seigneur qui m'a amené à pardonner à mon père. J'ai pu lui téléphoner et lui dire.
Papa, déjà pour que les mots sortent de ma bouche, c'était dur. Et lui dire, papa, je t'aime. Et c'était incroyable. Ce jour-là, il a pleuré au téléphone. C'était vraiment très, 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 très émouvant.
Oui, oui, je suis très contente. C'est ce qui pouvait y arriver de mieux dans la vie.
Lorsque je réalise ce que Dieu a fait dans ma vie, maintenant j'ai vraiment à cœur d'aller témoigner, d'apporter ce message d'espoir aux autres. Parce que Dieu avait vraiment fait des choses concrètes dans ma vie.
Écoutez, je suis extrêmement heureux parce que j'ai connu Sabrina dans des conditions exceptionnellement dramatiques et je l'ai vu évoluer par la suite. Et ce qui m'a énormément ému, c'est que depuis 15 ou 20 ans, je reçois à chaque Noël une lettre de Sabrina qui me dit l'évolution de sa vie. Je suis extrêmement fier pour elle.
Amen. Wow, c'est beau, hein ? Pour ceux qui la connaissent, elle vient le jeudi des fois. Et je me dis, alors, dis-moi quelqu'un qui a une dépendance plus que ça. Et tu crois que tu peux pas être délivré? Ah, si, si, si. Si Dieu était capable de sauver. Et regardez bien ce qui s'est passé. Elle le dit bien, Sabrina. Il y a un moment où elle est morte à elle-même. Même elle est carrément presque morte physiquement. Elle a lâché l'affaire. Seigneur, j'arriverai pas à m'en sortir. Et c'est là où quelque chose vient sur elle qui est plus grand que ses propres efforts. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui descend sur vous et qui vous amène dans une dimension où la loi ne peut pas vous amener. Abel, c'est le souffle, c'est la grâce. Et c'est pareil, quand Jésus dit qu'il revient, qu'il est ressuscité, il souffla sur eux, il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Vous ne pouvez pas vous en sortir contre une dépendance sans l'assistance du Saint-Esprit. Sans l'assistance du Saint-Esprit. Dans le monde invisible, le temps est passé, on s'arrête là, mais dans le monde invisible, c'est la dernière image, dans le monde invisible, grand B, il y a une lutte. Éphésiens, il dit « Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances ». Contre des autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Il y a une lutte. Tes péchés sexuels, tu ne te rends pas compte que ce n'est pas pour rien que ça arrive à chaque fois que tu reviens d'un moment fort, d'une réunion, que tu es le plus tenté par ça. Parce que le diable dit « Wouh !» Il est en train de devenir dangereux. Je vais lui amener suffisamment de tentations de clics sur Internet pour le ramener dans le péché. Mais toi, tu vois que le visible, mais dans l'invisible, il y a une pression spirituelle. Tu es en train d'hurler sur ton gars de 14 ans que tu as pris en flagrant délit d'être sur un site porno. Tu dis, mais c'est pas possible, ton père m'a quitté pour ça et toi. Mais il y a quelque chose de spirituel derrière. C'est quelque chose de spirituel, ne te fais pas piéger par ça. Tu te rends pas compte pourquoi c'est à la fin du culte que tu es en train de mal parler à ton conjoint dans la voiture. Et qu'il y a des insultes et des éclats de voix pour gâcher la présence du Saint-Esprit. S'il y a un combat, il y a quelque chose de spirituel. Le fruit de l'Esprit, le travail de l'Esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oh, la loi ne condamne pas de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Donc toi, ta seule chose à faire, c'est Seigneur, je meurs à mon ancienne façon de vivre. C'est la seule chose que tu as décidé, c'est-à-dire Seigneur, je renouvelle mon engagement de baptême aujourd'hui et puisque l'Esprit, et ça ne vient pas de toi, c'est ça la grâce, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Alors en un seul mot, comment m'en sortir par rapport à des péchés sexuels? Comment m'en sortir par rapport à des péchés occultes? Comment m'en sortir par rapport à des péchés caractériels? Comment m'en sortir par rapport à des dépendances? Soit tu choisis le chemin de la loi par tes propres efforts et tu vas t'épuiser, tu ne vas pas mourir à toi-même, tu vas contrôler et tu vas échouer. Ou soit tu choisis de dire « Seigneur, par mes propres forces, je n'y arrive pas, je suis mort. » Mais je crois que puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en moi, il me rend fort, tellement fort, vainqueur même de la mort. C'est ça, la grâce. On ferme les yeux. Seigneur, je te loue parce qu'il n'y a rien de plus beau et qui me motive plus sur la terre que de savoir que je ne suis pas jugé en fonction de mes propres efforts, mais je suis justifié par la foi dans ce que Jésus a fait à la croix et je suis persuadé que le Saint-Esprit qui fait de moi un enfant de Dieu intervient dans ma faiblesse, quand je ne sais plus prier. Le Saint-Esprit intercède auprès du Père. Ce qu'il a destiné d'avance, il a prévu de les rendre conformes à l'image de Christ. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, je voudrais te dire, je voudrais parler à tous les enfants de la grâce. Vous qui avez de la liberté de Dieu, où les règles ne sont pas votre façon de vivre, où c'est le Saint-Esprit qui est votre façon de vivre, ne profitez pas de la grâce pour faire n'importe quoi, ça c'est clair. Mais faites-en deux fois plus parce que c'est la grâce. Ce que la loi m'imposait et que la grâce ne m'impose plus, je le fais par plaisir, pour plaire à Dieu. Et je te lance un défi. Est-ce que dans cette église, on pourrait être encore beaucoup plus dans la sanctification que si jamais tu avais des règles à accomplir? Est-ce que ce que tu aurais fait par peur de Dieu, tu n'es pas capable d'en faire plus par amour pour Dieu? dans le domaine de ta vie sentimentale, dans le domaine de ta vie financière, dans le domaine de ton travail. Puisque c'est la grâce, Seigneur, remplis-nous d'une sanctification par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. On garde les yeux fermés, les personnes, les hommes, les femmes désignées pour la Sainte Cène. Vous pouvez venir devant. Je voudrais juste qu'on prenne ce chant qui dit combien la grâce de Dieu, ce qu'il a fait à la croix, cette mort et cette résurrection est le centre qui me permet à chaque fois de me représenter devant Christ, purifié, lavé. Alléluia.
Grâce infinie de mon sauveur qui ne joue m'a sauvé.
Grâce infinie. On est sur le point de prendre la Sainte Cène. Et la Sainte Cène, c'est quoi? C'est pour toute personne qui dit « Je suis mort à moi-même. Les choses anciennes sont passées. Je vis en nouveauté de vie. Je réalise que ce que je vais prendre là, le corps et le sang du Seigneur, symbolisés là par le pain et le vin, sont la preuve dans ma vie de mon assurance, de ma croyance, de ma foi dans l'œuvre de la croix et ma résurrection en Jésus. » Alors, on garde les yeux fermés, ça regarde chacun individuellement. Si tu es prêt à reconnaître l'œuvre de Jésus à la croix, lève-toi et prends la Sainte Cène. Lève-toi parce que ce n'est pas pour les personnes qui sont seulement parfaites. Non, 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 non. C'est ni la mort, ni la vie, ni la puissance, ni la hauteur, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Non, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Et c'est pour ça qu'individuellement, alors qu'on va parler de ce qui s'est passé au calvaire, je vais demander à toute l'équipe de prendre ce qui honore ce qui s'est passé à la croix sur le calvaire. Et tu t'examines toi-même, nous dit la Bible. Alors que les frères et les sœurs commencent à distribuer, chacun, on va se placer devant le Seigneur et dans ton cœur, prends cette coupe de bénédiction.
Sauveur du monde, a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert.
La terre, une âme tombeau, le corps de ta grâce séparé. Une horreur fidèle, sans son âme y prend. Le calvaire a tout couvert.
Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé. Jésus ne peut nous purifier. Nous voici libérés. Le calvaire a tout couvert. Nul autre que Jésus ne peut nous. Celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert.
Gloire à celui,
oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert.
Oui, gloire à celui,
gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert.